A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode un petit peu spécial du Rendez-vous Jeu, puisqu'on est en direct de la BlizzCon et j'ai autour de moi une collection assez incroyable de français et francophones. Je dis francophones parce qu'il y a Julien, si je dis français il va s'énerver, Julien de Judge Heap, qui est là comme depuis souvent. On se retrouve à la fin de la BlizzCon et puis on fait un petit résumé de tout ça. Alors si vous n'aimez pas les jeux Blizzard, vous risquez de vous ennuyer un tout petit peu, mais ne partez pas tout de suite parce qu'on a quand même AlphaCast qui est là avec nous. AlphaCast qui était le capitaine de l'équipe de France de la Overwatch World Cup. On sent la fatigue hein, déjà. J'ai une dent moins. Pour les gens qui n'ont pas suivi sur Twitter, je me suis fait enlever une dent de sagesse le lendemain de mon arrivée en Californie. C'était un épisode marrant. Donc voilà, j'espère que vous m'excuserez mes petites erreurs. Mais donc, on a Sébastien AlphaCast qui était le capitaine, qui est le capitaine de l'équipe de France pour l'Overwatch World Cup, qui va nous raconter un petit peu de son expérience. Avant ça, je vais faire un tour de table. On est nombreux. Vous vous présentez en 2 secondes pour nous dire qui vous êtes, que les gens sachent un petit peu d'où vous venez.
Salut, c'est Lona de Jajip, 7ème BlizzCon, et c'est parti pour ce soir.
Salut, moi c'est Julien, aussi connu sous le nom de Zekaria. Je travaille avec Mami Twink et on réalise des vidéos sur YouTube et des sites internet sur les jeux Blizzard.
Coucou, moi c'est Julien de Jajip.
Il y a Alex, le PR de Blizzard, qui est venu nous dire bonjour aussi pour s'assurer qu'on ne dise pas de bêtises. Donc on doit dire que des trucs gentils sur Blizzard, c'est ça Alex?
Exactement. Bonjour à tous.
On continue le tour de table. Bon, Alex s'en va, ça va, on va pouvoir dire des trucs méchants.
Damien de Icy Veins, le site de guide pour World of Warcraft.
Site de geek pour World of Warcraft? De guild, d'accord. Et de stratégie bien connue.
Alors moi c'est Florian, alias Mami Twink, du site mamitwink.com, et je bosse avec Zekaria. On a des sites sur les jeux bizarres et on fait des vidéos sur YouTube.
Et enfin donc AlphaCast que je présentais à l'instant.
Bonjour. Ici AlphaCast, bon, tu m'as présenté déjà, hein, streamer, commentateur sur Overwatch et un petit peu trop addict à ce jeu, je pense. Ouais.
Bon, ça me fait plaisir de vous avoir tous avec moi aujourd'hui, en particulier parce que beaucoup d'entre vous étaient déjà dans l'émission auparavant. Bien sûr, Julien qu'on connaît depuis longtemps. Mami Twink, à l'époque d'Azeroth.fr, à l'époque déjà, on s'était croisés. Alpha, que certains d'entre vous reconnaîtront, déjà parce que c'est un streamer connu et puis en plus parce qu'on avait fait le spécial Overwatch il y a quelques mois déjà, on sentait que ce jeu avait un potentiel. Donc on va vous parler de tout ce qui a été annoncé dans la BlizzCon. Avant tout, il n'y a pas eu d'énormes annonces, il n'y a pas eu le nouveau jeu, la nouvelle extension. Donc il y a quand même eu, pour les gens qui apprécient les différents jeux, il y a quand même eu pas mal de choses sur Overwatch, sur World of Warcraft, sur Hearthstone. Donc on va y venir au cours de l'émission. Mais avant ça, j'aimerais donc parler à Sébastien, qui va rentrer se coucher bientôt parce qu'il est un petit peu épuisé. Mais tu as eu un parcours, tu et vous, l'équipe de France, avez eu un parcours quand même assez incroyable. Je crois que vous êtes l'une des seules équipes du championnat qui est majoritairement non-pro. Ça a provoqué des commentaires, on va dire, de la communauté française. Et vous avez prouvé, en réussissant à venir jusqu'à la BlizzCon, en vous qualifiant quand même, que vous pouviez faire des choses assez incroyables. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de l'expérience que ça a été avec ton équipe? Nous faire vivre de l'intérieur ce truc qui était quand même assez exceptionnel.
Ça a vraiment été une super expérience parce que je suis pas joueur pro à la base et je passe mon temps à commenter des joueurs pro, donc on les voit juste dans le jeu. Et puis là, j'étais avec eux, j'étais parmi eux, donc c'était super intéressant. Et c'est vrai qu'on n'était clairement pas favoris quand l'équipe a été annoncée. On a eu un parcours qui a été assez facilité par des tirages de groupe avec des pays un peu plus faibles. On a eu un match de barrage contre un pays qui était totalement prenable comparé aux autres. Donc on a eu vraiment beaucoup de chance en fait sur notre parcours. Mais quand il a fallu affronter des gros pays comme la Chine, on a réussi à remporter la victoire. Vraiment, ça a été super intéressant parce que même si on était toujours les challengers un peu, justement, ça nous donnait encore plus envie de prouver qu'on pouvait le faire et qu'on n'était pas juste une bande de touristes qui était à la BlizzCon, quoi.
Bah, c'est ça, en fait. Vous êtes arrivé jusqu'en quart de finale. Vous avez malheureusement perdu contre la Russie dans un match qui était haletant. On entendait les commentaires, je pense qu'on était tous d'accord, tous les commentateurs disaient « Ouais, bon, ça va être compliqué pour la France, ça va être a priori 2-0, voilà, ça va être plié. » Et vous êtes allé jusqu'au bout du truc, jusqu'au dernier moment où on pensait que c'était possible. Vous avez eu des matchs hyper intéressants dans les poules, etc. Comment est-ce que vous êtes, vous avez, oui, entre parenthèses, la Russie est arrivée en finale, s'est faite démolir par la Corée du Sud. On pourrait y revenir un petit peu parce que c'est l'émergence de la Corée du Sud, même dans Overwatch, ils sont partout. Mais comment est-ce que vous avez fait, comment est-ce que vous avez approché ce challenge de réussir à vous battre contre des vraies équipes pro, alors que vous avez tous un boulot, enfin presque, il y a deux joueurs pro et un semi-pro dans votre équipe. Trois pros, ok.
Il m'a tué quand j'ai dit c'était un semi-pro. Il m'a dit mais je suis pro, t'es sérieux? Donc bon, c'est trois pros, hein, c'est trois pros.
Ok, j'effacerai ça de l'émission. Non, je plaisante. Mais ouais, donc comment vous faites? Comment vous êtes préparé? Qu'est-ce que ça a fait au cours des qualificatifs? Et puis quand vous êtes qualifié pour être sur la scène à la BlizzCon, comment vous avez géré tout ça?
Ben, on a eu l'opening week où à partir du 23 octobre, on était aux States dans les studios pour s'entraîner. On avait une zone d'entraînement qui était très bien faite. Blizzard a très bien organisé tout ça. Et ça a été vraiment beaucoup d'entraînement pour notre équipe et pas mal de remises en question. Par exemple, on a Mikalo qui était sur un poste de personnage assassin qu'on a carrément mis sur le tank. Sur le personnage beaucoup plus résistant pour un petit peu rééquilibrer les choses parce qu'on avait un gros souci de dégâts dans l'équipe et du coup on s'est dit bon bah on va changer carrément, on en est au group stage mais on va décider de changer maintenant et ça a beaucoup mieux fonctionné, donc c'était un pari qui a fonctionné et au final on a beaucoup joué, on s'est beaucoup entraîné contre toutes les équipes. On a pris des grosses tôles en entraînement contre les autres équipes de la coupe hein, comme la Suède ou d'autres pays comme ça, mais au final on avait la chance de pas avoir une équipe full pro, en fait. Entre guillemets, la chance, parce que il y a des équipes full pro, comme par exemple l'Allemagne, qui ont eu beaucoup de difficultés à communiquer, parce que chaque joueur, un peu, avait son ego de joueur pro. Et du coup, c'était très compliqué entre eux de se dire « Ah non, là, t'as pas fait ça bien et tout. » En plus, c'était pas forcément des joueurs qui étaient de la même équipe avant. Donc, la synergie ne fonctionnait pas très bien. Alors qu'avec l'équipe de France, on avait Nox qui est dans la meilleure équipe du monde actuellement et qui est le meneur in-game de cette équipe, c'est les Rogues. Et dès que quelque chose ça allait pas, il disait t'as fait nimp, faut que tu fasses ça comme ça. Et là on s'écrasait, on écoutait. Et donc du coup on a tous vraiment mis nos égos de côté et ça s'est super bien passé vraiment comme ça.
Donc tu dirais qu'en fait ce qui vous a permis d'arriver à ce niveau, c'est que c'est plus la coordination de l'équipe et le fait d'effectivement avoir une voie que vous suiviez et puis accepter que vous étiez pas forcément destiné à faire tel ou tel truc et prendre le rôle qui était nécessaire pour que l'équipe fonctionne mieux, quoi.
Bah exactement. Moi-même, je suis connu pour jouer plutôt Genji, Mei et Chopper. Je me suis retrouvé à jouer Lucio. Donc, c'est pas trop mon rôle de base, mais...
Mais donc, ils t'ont dit, vous êtes rencontrés. Les premières rencontres, c'était genre... bon, écoute, toi, Alpha, on va te mettre sur Lucio. Ça va être beaucoup plus simple. Non, comment ça s'est passé, en fait?
Non, je le savais que ce serait comme ça. Donc, je l'ai dit d'abord. J'ai pris les devants. J'ai fait, bon, les gars, je vais jouer Lucio. Hein, je sais bien que ça va pas le faire, sinon.
Lucio, qui est un personnage beaucoup plus facile à jouer que d'autres, comme ceux que tu mentionnais, quoi.
Bah, c'est un personnage qui est facile et pas facile. En fait, ça demande pas de la précision, comme par exemple McCree ou Genji, mais ça demande un bon timing et une bonne vision de jeu, en fait. Savoir bien où se trouvent tous ses amis et faire attention à éloigner les menaces avec le clic droit, avec le boop. Éloigner les menaces qui sont au corps à corps par rapport à Anna. Justement, mon boulot, souvent, c'était de protéger Kitty, qui était l'autre support. Donc c'est quand même tendu hein. À ce niveau, Lucio c'est pas non plus la balade hein. Faut être au taquet.
C'est vrai qu'il y a eu quelques matchs dans, à la fin de la poule où il y a eu des utilisations d'ultime, des trucs comme ça qui ont sauvé l'équipe. Et il y en a eu d'autres où ça a été un petit peu plus compliqué. Mais d'accord. Bon, j'aimerais bien parler de tout ça pendant à peu près 2 heures. Mais est-ce qu'il y a un bon et un mauvais souvenir que tu garderas, parce que ça, c'est, j'imagine que ça va pas se reproduire tous les ans non plus, ce genre de truc, mais un bon et un mauvais souvenir que tu garderas de cette aventure?
J'ai commencé par le mauvais souvenir. Le mauvais souvenir, c'est le match contre la Thaïlande, où en gros, c'est les group stage, on avait gagné Singapour et on voulait gagner contre la Thaïlande, et sur le papier, on était kiff-kiff, mais on se disait qu'on avait quand même une bonne chance parce qu'on avait vu leur match la veille. Et on perd 2-1, la dernière map ça se joue et on perd 3-2 sur Lijiang. Et donc ça s'est joué à ça quoi, on a joué toutes les maps possibles en fait dans le match, c'était hyper serré et on perd la dernière et vraiment là quand j'ai terminé le match j'étais pas bien parce que je me dis mince et derrière on a la Chine et si on perd contre la Chine on est hors du tournoi, on sera même pas à la BlizzCon et j'étais vraiment pas bien parce que quand j'ai vu Chine, Thaïlande et Singapour, je me suis dit, mais on peut le faire. On peut battre ces pays. La Chine, ça va probablement être le plus fort. Mais on peut battre ces pays et aller à la BlizzCon. Et de savoir qu'on perd ce match, je me dis, non, on était si proches. Et du coup, j'étais vraiment pas bien. Mais du coup, mon meilleur souvenir, c'est le lendemain. En plus, c'était mon anniversaire. Donc du coup, c'était le meilleur jour. Et le lendemain, on affronte la Chine. Et ensuite, du coup, en gagnant la Chine, on a créé une situation d'égalité. C'est quelque chose qui est très rare. Donc la Thaïlande, nous et la Chine étaient égalité dans le groupe. Et uniquement les deux premiers pouvaient se qualifier pour la BlizzCon. Et du coup, après, on a dû rejouer. Le match s'est fini hyper tard et il y avait encore énormément de gens sur les streams français qui suivaient les matchs. C'était dingue. Et du coup, là, cette fois-ci, on perd la Chine pour les matchs d'égalité, mais on gagne la Thaïlande et du coup, on prend la deuxième place. Et là, après le match contre la Thaïlande, j'ai hurlé, j'étais trop heureux, quoi. Donc, c'était vraiment le meilleur moment avec l'équipe, là. Vraiment, j'ai ressenti ce que ressentaient les joueurs pros après une belle victoire et c'est un sentiment génial, ouais.
Après avoir perdu un match, tu fais quoi? Un match comme ça? Et après avoir gagné un match, vous faites quoi? C'est genre, vous allez au bar, vous bourrez la gueule, vous allez vous coucher pour préparer le lendemain ou...
Après le match contre la Thaïlande, on s'est fait un gros resto. En fait, je pense que j'étais celui qui avait le moral le plus au fond. Et du coup, ils ont essayé un peu de me remonter le moral, mais non, on allait se coucher. Et on a fait un bon resto, on allait se coucher. Et moi, j'ai quasiment pas dormi de la nuit. Mais ce qui est bête, hein, parce qu'il faut penser au match d'après. Mais les autres avaient déjà la tête dans l'autre match. Hein. Moi, j'y pensais aussi, mais j'arrêtais pas de me. Je me suis regardé la VOD. Je me dis, là, j'ai fait une erreur. Là, on a fait une erreur. Là, on a fait une. Et donc, du coup, ouais. Je pense que, enfin, ça dépend des gens, quoi. Moi, en tout cas, personnellement, ouais, il y a eu pas un petit peu trop, je pense, comment dire, j'arrêtais pas d'y repenser, quoi, de me ressasser le match. Mais après, quand on a gagné contre la Thaïlande, en fait, le lendemain, on devait partir pour Anaheim.
En fait, pour la BlizzCon, en fait.
Oui, pour la BlizzCon. Et du coup, on a célébré sur le moment, on était trop heureux. Mais après, on allait se coucher. Il n'y a pas eu de soirée de fou, on est resté assez sobre, en fait.
D'accord, donc t'étais pas à danser sur le bar, d'accord. Peut-être, dernière question et puis je te laisse partir. Est-ce que tu as réalisé quelque chose? Parce que tu as quand même un bon niveau de base. On dit, ouais, pas pro, machin. Tu te démerdes. T'es quoi, niveau master à peu près? Quelque chose comme ça?
Vers 3007 par là, master.
D'accord. Quelle serait la différence que tu as perçue entre quelqu'un qui joue super bien à la maison, qui n'est pas un pro et qui est genre master, quelque chose comme ça, et vraiment les pros? Au-delà du fait qu'ils savent aligner la cible sur l'ennemi, quelle est la différence qui t'a marqué ou à laquelle tu n'avais pas forcément pensé, même si tu suis le truc de très près?
La communication, hein, tout simplement. Hein. C'est ce qui fait tout. Overwatch, c'est tellement un jeu axé teamplay. Vraiment, c'est du jeu d'équipe. Et tu peux être dieu sur McCree. Si tu dis pas aux autres ce qui se passe ou que tu communiques pas, tu vas pas t'en sortir. Donc vraiment, avant tout, c'est la communication. Et on l'a vu, notamment, il y avait des streamers qui étaient très très forts, qui étaient, je pense que c'était le streamer canadien, Poke, qui était chez l'équipe canadienne. Et c'est un joueur de Genji vraiment d'exception en solo queue. Mais là, à cette World Cup, il a pas réussi à perf parce que, enfin, je sais pas, ça se passait pas bien au niveau de la communication. Donc on le voyait vraiment, d'autres joueurs qui étaient techniquement en dessous. arrivaient à plus faire la différence parce qu'ils communiquaient plus. Donc c'est vraiment principalement ça, des joueurs qui vont être chez eux et qui vont jouer tout seuls mais qui sont impressionnants mécaniquement vont pas forcément faire autant la différence que des joueurs qui ont un bon jeu d'équipe et qui ont l'habitude de jouer en équipe.
D'accord, bah, merci beaucoup. Je pense que à moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter, on a quand même eu une super aventure qu'on a vécue avec vous. Donc merci de nous avoir consacré un petit moment maintenant, mais surtout merci à toute l'équipe d'avoir fait vivre ça, parce que moi, qui suis pas généralement hyper fan d'e-sport, j'ai suivi ça à chaque étape et j'étais comme un fou devant mon ordinateur pendant les qualifications, quand vous êtes qualifié pour la BlizzCon. Et puis même ici, avec cette scène qui était vraiment très belle, venir vous voir jouer ici avec le drapeau sur moi, c'était un truc. Il y a vraiment un truc qui se passe quand on peut défendre une équipe dont on se sent proche, parce que c'est le pays ou la ville ou ce que c'est, quoi. Et ça, c'est un truc que je connaissais pas parce que j'aime pas le sport, mais en e-sport ça a marché. Donc merci beaucoup à toi, je te laisse filer, et puis écoute, AlphaCast sur Twitter, et puis on aura l'occasion de se recroiser, je suis sûr.
Merci pour l'invitation, Patrick.
Ciao, à la prochaine. On parlait de localité. Il y a une annonce qui a fait particulièrement du bruit à la BlizzCon, notamment par rapport à Overwatch. C'est cette annonce de Overwatch Pro League, qui est donc sans doute, je pense, vous allez me dire si vous êtes d'accord, la plus grosse annonce de la BlizzCon, le fait que Blizzard va prendre en charge l'organisation d'une ligue professionnelle de joueurs d'Overwatch qui va exister dans l'ensemble des pays. Il va y avoir dans les pays principaux des équipes qui sont payées par Blizzard, comme le fait Riot avec League of Legends, et donc ils vont organiser des championnats, et on va avoir, en plus du plaisir de regarder de l'e-sport Overwatch, le plaisir de soutenir l'équipe de notre ville, de notre pays, etc., dans les championnats. Pour moi, je me dis, c'est la plus grosse annonce de la BlizzCon. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, ce que vous pensez de cette annonce. Quelqu'un veut prendre le... Ouais, Emmanuel ?
Oh ouais, moi, ce que je trouve génial, c'est que ça va permettre d'ouvrir l'e-sport à plus de gens. Je pense que dans la tête de beaucoup de personnes dans le monde qui sont pas nécessairement fans de jeux vidéo, ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce qu'on peut se faire de l'argent en jouant à des jeux vidéo. Ils se disent, mais c'est complètement stupide. Normalement, on paye pour jouer à des jeux vidéo, on n'est pas payé pour. Et puis ensuite, si on fait le parallèle avec un sport normal, en fait, des gens courent après un ballon ou jouent à des sports, c'est la même chose. Ils sont payés pour faire quelque chose qui... pour la plupart des gens, quelque chose qui est un plaisir. Et je pense que ça va permettre d'ouvrir l'e-sport à plus de gens et un peu à légitimiser. Pardon, je perds mon français. Et je pense que c'est une très bonne direction parce que c'est soutenu par une société financièrement. Donc ça va permettre aussi de mettre quelque chose de stable et mettre des salaires dessus. Pour moi, c'est une super initiative.
C'est sûr que même pour les joueurs pro d'e-sport, il y a quelques équipes qui y arrivent, mais c'est compliqué de réussir à en vivre. Et évidemment, ici, l'intérêt financier de Blizzard est évident parce qu'ils vont payer les joueurs, mais ça va augmenter a priori la popularité du jeu. Ils vont en vendre plus. Mais oui, c'est vrai que ça pourrait amener. On rentre vraiment, à mon sens, dans cette phase où l'e-sport peut sortir de l'e-sport et devenir arriver au devant les yeux de plus de monde, et on est vraiment dans cette ce moment où tout se met en place. On parle souvent de Canal+ qui va faire de l'e-sport, de machin, les équipes qui sont rachetées, etc. Donc ça, une grosse annonce. Il y a bien sûr eu le personnage de Sombra qui a été annoncé. Quelqu'un veut nous donner ses impressions? Alors, Sombra, qui est une hackeuse qui peut se déplacer, qui peut devenir invisible, qui va désactiver les capacités spéciales des autres des ennemis. Quelqu'un veut nous dire deux mots sur Sombra?
Alors Sombra, donc le nouveau personnage qui a été dévoilé à la BlizzCon, ça faisait plusieurs mois que Blizzard teasait l'arrivée de ce héros dans Overwatch, notamment avec des petits jeux sur le site internet, des piratages, donc il y avait pas mal de joueurs qui étaient sur l'affaire. Et donc Sombra, c'est un nouveau personnage furtif, un personnage d'attaque qui va aller se faufiler derrière les lignes adverses pour hacker les adversaires, donc en les hackant en fait, Sombra les empêche d'utiliser leurs capacités. Et c'est un personnage qui va vraiment se jouer en équipe, dans le sens où son ultime, donc son sort le plus puissant, c'est une zone qui désactive tout le monde autour d'elle. Donc elle peut se rendre invisible, aller derrière les ennemis et lancer cette zone qui va d'un coup surprendre tout le monde. Tous les boucliers seront désactivés et les ennemis vont être complètement pris à revers. Donc je pense que ça va faire de très très belles choses dans le jeu d'équipe en tout cas. Là, au niveau.
Et elle a des capacités amusantes. Elle peut par exemple hacker les packs de vie, ce qui va les rendre non disponibles pour les ennemis. Donc, et ça reste pendant 45, 50, 60 secondes. Donc ça peut vraiment influencer. C'est un personnage très difficile à jouer, mais qui risque d'être très amusant à jouer aussi. Si vous appréciez Overwatch, elle arrivera sur le PTR de la semaine prochaine. Donc allez y jeter un coup d'œil, ça a l'air vraiment sympa. Entre parenthèses, tu parlais du reveal de son bras. Ils l'ont fait d'une manière qui était vraiment amusante. Pendant la cérémonie d'ouverture, il y a eu une série de vidéos et de discours sur les 25 ans de Blizzard, un truc vraiment émouvant. Ils ont réussi, c'était très bien écrit, ils ont réussi à faire passer cette idée que c'était une bande de geeks qui sont réunis pour transmettre en jeux vidéo ce qu'ils appréciaient en papier. Alors les jeux de rôle, les jeux de cartes, etc. Et donc il y avait ces vidéos où ils montraient les fondateurs qui étaient dans les couloirs qu'on a vu souvent. Il y avait l'annonce que Alan Adham va revenir. C'était un des fondateurs qui était parti. Il va revenir dans l'équipe, etc. Et puis il y a une vidéo qui montre le lancement de Overwatch depuis les bureaux de Blizzard. Et là c'était complètement dans le trip. Donc on se dit ah ouais ça va être sympa, ça va être intéressant. Et puis tout à coup il y a un petit glitch dans la vidéo. Et ça a pris peut-être une seconde où les gens se sont dit « Ah tiens, ils ont une merde de production ». Et puis au bout d'une seconde, tout le monde a compris que c'était son bras qui était en train de hacker la vidéo. Et il y a eu un retentissement dans la salle. Tout le monde a fait « Oh, son bras !» Et ça a pris quelques secondes de plus pour arriver, c'était vraiment marrant. Mais il y avait une autre annonce qui était sympa pour Overwatch, c'est le mode arcade qui va inclure différents modes de jeu, des brawls comme il y en avait jusqu'à maintenant, mais aussi des modes un petit peu surprenants comme du 1 contre 1 où les deux joueurs seront sur une carte un peu plus petite en jouant le même personnage tiré au hasard et ils devront se battre dans une série de matchs, ou alors du 3 contre 3, c'est vraiment du deathmatch où il n'y a pas de respawn. Une fois qu'on est mort, on est mort et c'est terminé. Ça c'est un assez gros changement par rapport au mode de jeu existant, mais c'est dans la partie arcade où c'est un petit peu on tente ce qu'on veut, on voit ce qui se passe, c'est pas forcément destiné à rester jusqu'à la fin des temps. Quelqu'un veut parler de ça? Non, pas spécialement. Julien?
Bah ouais, moi j'ai trouvé l'idée plutôt sympa puisque ça va permettre de retrouver des anciennes maps comme Lucha Ball ou ce genre de trucs. Bon, je trouve que l'idée est sympa, notamment pour les joueurs plus occasionnels. Je pense pas que les joueurs pro vont souvent passer dans l'arcade. Mais c'est plus les gars qui jouent une fois de temps en temps qui vont apprécier le système. Voilà, bah comme Manu.
Oui, ce qui est pendant les questions et réponses d'Overwatch, il disait que le 1v1 et le 3v3, quand ils l'ont lancé en interne chez Blizzard, les employés s'y sont attachés à un point où c'était hyper compétitif entre tout le monde. Et donc ils se demandent si ça va pas finir dans le compétitif d'une manière ou d'une autre. Ils savent pas, pour l'instant c'est pas le cas, évidemment c'est pas prévu, mais c'est peut-être quelque chose qu'ils ouvriraient au compétitif plus tard.
C'est vrai que c'est assez séduisant l'idée de se dire toi t'es pas mauvais, moi je pense que je suis meilleur que toi, maintenant on va voir quoi. C'est un contre un et puis c'est 9 matchs, donc 5 à gagner où à chaque fois c'est random. Et puis là on va savoir, il n'y a pas d'équipe à accuser d'être complètement débile pour se dire c'est pour ça qu'on a perdu. Là c'est la vraie réponse quoi. Alors comme pour tous les autres jeux, il y aurait énormément de choses à dire, mais je crois qu'on va avancer parce que sinon on pourrait passer 2 heures sur chaque jeu. Parlons un petit peu de World of Warcraft avec relativement peu d'annonces pendant la cérémonie d'ouverture, mais après, quand ils ont parlé de ce qui va arriver pour World of Warcraft, la réaction assez unanime des gens auxquels j'ai parlé, c'était « Mais c'est incroyable le nombre de trucs qu'ils sont en train de préparer. » Il y a un patch 7.1.5, ce que les non-joueurs ne comprendront pas, mais c'est un patch qui va arriver bientôt, qui aura quelques petits trucs. Un patch 7.2 qui va arriver ensuite, qui aura encore énormément de choses. Quelques exemples, ça sera les micro-vacances, les micro-jours fériés où genre on va célébrer l'ouverture des portes d'un Kirage pendant une journée qui était super marrant. On a le « Devenez un garde de Stormwind pour une journée » qui est une autre de ces micro-vacances. On a des choses comme dans le patch 7.2, le vol qui va revenir avec des montures épiques qu'on pourra avoir pour chaque classe, des montures différentes, une nouvelle zone, nouveau raid, nouveau donjon. Enfin, c'est un petit peu le truc classique, mais ce qui marque vraiment, c'est après les problèmes qu'avait Warlords of Draenor, où il y a eu une longue année où il n'y avait pas du tout de contenu, là on a l'impression qu'ils se sont dit ok, c'est fini les conneries, maintenant on va faire l'inverse, il y en aura tout le temps des tonnes. Je me dis, Mamuk Twink, ça te parle ce genre de truc ?
Oui, je pense que déjà durant Warlords, ils travaillaient déjà sur un grand nombre de contenus de Légion. Et je pense qu'ils ont beaucoup appris des erreurs du passé et qu'ils ont décidé de mettre le paquet sur Légion avec un lancement d'extension déjà super réussi, beaucoup de contenu à haut niveau, les joueurs qui retrouvent un peu cette flamme en eux qu'ils avaient eu lors des débuts de World of Warcraft ou lors des deux premières extensions. Et on voit beaucoup de joueurs qui sont de retour, qui sont émerveillés par le jeu, et là ils ont mis vraiment le paquet avec le patch 7.2 qui arrivera derrière, un patch 7.3 qui a été donc confirmé. On peut deviner que ce sera sur Argus.
Ouais, ils ont évoqué le truc un petit peu pour nous donner l'eau à la bouche, quoi. Mais c'est encore cette impression de vous aurez pas le temps de vous reposer, quoi, à la limite.
Bah, c'est marrant parce que bon, depuis de nombreuses années, les trolls aiment bien dire que WoW est mort. Et avec Warlords, il y a eu beaucoup de gens déçus, beaucoup de gens qui avaient arrêté. Et on s'attendait pas à ce que, enfin, il puisse y avoir à nouveau tant de gens qui reviennent en Azeroth. On l'a vu avec le patch pré-extension de Légion, avec les invasions de démons en Azeroth. On s'est tous pris au jeu et on se retrouvait avec des centaines de joueurs à défoncer des démons. C'était super sympa. Et finalement, WoW n'est pas du tout mort. Il y a des millions de joueurs qui y jouent. Et c'est bien parti pour que Légion fasse partie, je pense, des trois meilleures extensions de World of Warcraft, si ce n'est peut-être la meilleure.
Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se dire ça, et vu ce qu'ils sont en train de préparer, c'est vrai que les joueurs apprécient. Damien, bon, toi, ton site Icy Veins, c'est quand même beaucoup basé sur WoW, même si vous faites d'autres choses. Quelle est ta lecture de ce qui s'est passé à la BlizzCon cette année sur World of Warcraft, même s'il n'y a pas de nouvelle extension, de ce qu'ils ont annoncé, qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Moi, je pense que c'est bien dans la lignée de ce qu'ils ont fait avec Légion. On a été, je pense, tous un peu surpris agréablement du contenu assez vaste qui est proposé depuis le début de l'extension.
Excuse-moi, je t'interroge juste une seconde. Est-ce que tu sens, toi, sur ton site, le retour des joueurs ? Est-ce que vous avez eu un pic de fréquentation, sans donner de chiffres, mais...
Non, mais clairement, enfin, pour comparer avec le lancement de Warlord, on est à deux fois plus de visites que pendant le début de Warlord. Alors, il y a plus de contenu, donc les gens viennent plus souvent sur le site, donc ce qui contribue au trafic accru, mais enfin, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de joueurs qu'au début de Warlord, ça c'est certain. Alors, nous, on n'a pas de... En visiteur unique, on est à deux fois plus, mais je sais pas comment ça se traduit au niveau de Blizzard, parce qu'on a que... On cible qu'une... démographique, c'est en anglais, je sais pas comment dire en français.
Non, mais une partie des joueurs qui est quand même particulièrement hardcore sur le jeu, quoi.
Mais on n'a très peu d'Asiatiques ou de Moyen-Orient, donc on sait pas. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de joueurs qu'au début de Warlord. Et ce qui est intéressant, c'est que en dépit du fait qu'on ait eu une extension déjà très chargée, eh ben on voit que ça va continuer, qu'il y a 7.1.5 qui arrive. Il y a Nighthold aussi, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est le raid qui va ouvrir au mois de janvier, hein, donc qui est déjà dans le jeu, mais qui est juste pas ouvert, donc il y aura ça. Ensuite, il y a 7.2, donc qui devrait arriver si on prend environ 3 mois après Nighthold, qui devrait arriver au début du printemps. Donc on a déjà une série d'annonces qui vont nous couvrir les 6 prochains mois quasiment, et il y a encore du contenu qui arrive derrière, d'après ce qu'on comprend. Donc c'est incroyable. Tous les gens qui jouent, on pas assez de temps.
On en perd nos mots.
Non, mais c'est vrai, on n'a pas assez de temps pour faire tout le contenu, quoi. Même les joueurs dans les meilleures guildes qui ont d'habitude 5-6 persos, donc là ils ont toujours, mais ils me disent que c'est une masse de travail qui est incroyable, quoi, de maintenir autant de persos au niveau maximal, enfin de faire toutes les quêtes et tout. Moi, j'en ai qu'un seul et je trouve que c'est déjà difficile. Et tant mieux, parce que comme ça, ça maintient mon intérêt dans le jeu. Et enfin, c'est j'ai l'impression qu'on a on a assisté un peu à la renaissance de WoW avec les légions. Quoi. Ça va. C'est...
Bah effectivement, à voir maintenant s'ils vont réussir à continuer la performance, parce que là c'était surprenant. On arrive au moment où généralement sur les dernières extensions il y avait une petite chute et il est évident qu'il va y en avoir une, mais à voir si leurs annonces va réussir à garder l'intérêt des joueurs au-delà des traditionnels 3 mois, 4 mois.
Je rebondis là-dessus, nous sur Icy Mains, le trafic baisse doucement comme après chaque début d'extension, mais il baisse beaucoup moins vite qu'après le lancement de Warlord, par exemple.
Ouais, donc ça semble se confirmer, ouais. Bon, là aussi, il y aurait des choses à dire. Avec le patch 7.2, on va aller dans la tombe de Sargeras, et puis comme on évoquait le 7.3 Argus, pour ceux qui savent de quoi il s'agit dans le monde de World of Warcraft, c'est énorme. C'est Illidan qui... Enfin bon, je vais me mettre à geeker comme un fou, donc on va avancer. Peut-être parler un petit peu de Hearthstone, qui est un cas un petit peu intéressant. Vous allez me dire si vous avez le même ressenti. Il y a une nouvelle extension qui a été annoncée, qui a l'air sympathique. Hein. En anglais, c'est Mean Streets of Gadgetzan. Je ne sais pas si quelqu'un a le titre français.
C'est Main Basse sur Gadgetzan en français.
Voilà, qui est donc une extension, voilà, avec plein de cartes, des trucs un petit peu différents. Hein, on pourrait donner des exemples comme le Patches le pirate, qui à chaque fois que vous jouez un pirate, eh ben il sort de votre deck et il arrive directement sur le plateau de jeu. Il y a des cartes qui sont des cartes disponibles pour 3 classes différentes, et par exemple il y a une carte qui est hyper intéressante qui s'appelle Kazakas, qui vous permet de créer votre propre sort. C'était vraiment un truc original où donc vous posez la carte sur le jeu et ça va vous faire comme quand vous découvrez des minions ou des cartes. Et ben vous allez choisir, il y en a 3 disponibles, elle coûte 1 mana, 5 mana, 10 mana, vous choisissez. Deuxième choix, elle fait tel truc, tel truc, tel truc. Troisième choix, elle fait tel truc, tel truc, tel truc. Donc vous créez un sort pendant la partie, c'est assez original. Mais moi, mon impression, je joue plus trop à Hearthstone depuis un moment, j'ai presque l'impression qu'ils sont arrivés plus vite au stade à peu près où était World of Warcraft, après 4 ou 5 ans, c'est-à-dire que c'est une extension cool, c'est marrant, c'est sympa, mais c'est jamais qu'une extension de plus. Donc, est-ce que ça va me motiver si je suis pas déjà complètement dedans? Est-ce que c'est mon impression? Est-ce que vous partagez ça? Je sais pas si...
Je pense que l'impression, elle est plutôt bonne, on a la même, et en termes de trafic sur nos sites, ça se ressent aussi, c'est-à-dire qu'il y a... Il y a eu une baisse, il y a eu d'énormes pics pour les autres extensions. Il y a de l'intérêt pour celle-ci, mais on sent que les joueurs commencent à avoir l'habitude. Blizzard sort ses extensions et ses aventures par cycle, donc assez régulièrement. Et finalement, les gens s'y attendent. Ils savent voilà, qu'il y a une nouvelle extension, qu'il va y avoir de nouvelles cartes. Donc c'est intéressant, mais ça reste, comme tu le disais, ça reste une extension. C'est pas, on révolutionne pas complètement le jeu, on ajoute de nouvelles cartes, il y en a d'anciennes qui vont sortir. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plus de 1000 cartes différentes. Donc, au bout d'un moment, il y a peut-être aussi cette fatigue des joueurs qui disent « Bon, j'ai passé l'année 2014 à collectionner toutes ces cartes et finalement, dans 2 mois, elles serviront plus à rien. » Puisque maintenant, les anciennes cartes disparaissent du jeu, on peut plus les jouer en mode compétitif. Du coup, je pense que ça joue un peu aussi. Et le jeu est arrivé très rapidement à maturité. Je pense que c'est un cycle de vie normal pour un jeu de cartes. Au bout d'un moment, les gens vont, ça va être cycliste, ils vont s'y intéresser quand il y a une extension, quand il y a de nouvelles choses, et puis ça va se stabiliser, et puis ça va revenir une nouvelle extension, et ainsi de suite. Et il faut juste espérer que Blizzard continue.
Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Continue à sortir des choses originales, puisque là, malgré le fait qu'il y ait plus de 1000 cartes, comme tu le disais, on peut créer notre propre sort, c'est super original, ça a été fait dans aucun autre jeu pour l'instant. Et donc, faut juste espérer qu'ils gardent cette fibre créative et qu'ils continuent à faire des trucs qui justement intéressent les joueurs, parce que le pire des cas, ce serait que les gens se disent « Ah, une nouvelle extension, ouais, en fait, les cartes, bon, je m'en fous. » Et puis,
j'en ai déjà plein, ça va, j'ai déjà eu. Quoi.
C'est exactement ça. Là, je pense que ça va redonner un bon coup de fouet à Hearthstone, à voir combien de temps ça va durer, ce que ça va apporter au jeu sur le moyen et long terme. Quoi.
Je sais plus ce que je voulais dire. Quelqu'un d'autre veut reprendre ?
Non, bah, je confirme ce qu'a dit Julien. Sur Ice Events, on a quand même pas mal de contenu Hearthstone. On est un des plus gros sites anglophones sur Hearthstone. Et on voit bien que depuis quelques mois, ça baisse doucement, mais ça baisse.
C'est disons que le truc qu'on peut espérer pour Blizzard, c'est il y a de temps en temps ces petits trucs différents, surprenants, qui peuvent toujours arriver chez un développeur comme ça. J'imagine que l'équipe qui est derrière Hearthstone est consciente de ce problème. Maintenant, à savoir s'ils réussissent à trouver une solution, parce que ça se trouve, il n'y en a pas. C'est juste que Hearthstone, c'est ce jeu. Et puis, ajouter des modes, c'est toujours compliqué parce que ça amène un petit peu de confusion sur le jeu. Et puis, c'est pas exactement la même chose que ce que les gens aiment. Donc, en même temps, ils veulent de la nouveauté, mais pas trop, mais quand même de la nouveauté. Donc, bon, on verra ce qu'ils vont réussir à nous sortir. Heroes of the Storm. Heroes of the Storm, il y a eu, en fait, quelques annonces des personnages marrants. Le roi Varian Rin qui a tiré sa larme à la plupart des joueurs de World of Warcraft qui va arriver sur Heroes. Et puis un personnage... il y a des joueurs de la Horde qui me disent qu'ils s'en foutent en fait. Voilà, j'ai compris les petits...
Non, moi je me suis dit qu'on était enfin tranquille avec Varian. Eh ben en fait non.
Il revient encore une fois, ouais, voilà. Ragnaros... qui est un personnage de Heroes of the Storm. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le jouer. Mamie Twin, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Super original, il peut se transformer en une arme de siège. Donc
il prend une tour en fait, il se met sur la tour.
Carrément un fort même, il devient un fort, que ce soit défensif ou offensif. Et il a une sorte de seconde vie, super bien fait le perso, vraiment très original. Après, je sais pas si ça suffira à me faire revenir sur Heroes. Moi, ça fait un petit moment que j'y joue plus. Mais en tout cas, un très chouette à jouer.
Je l'ai essayé aussi et c'est vrai qu'il y a cette... ils ont réussi à retranscrire l'impression de Ragnaros quand il se transforme effectivement en fort. Tu cliques sur un fort qui a été détruit chez tes ennemis ou un fort à toi. Et il... quadruple de taille, quoi. Il est énorme pendant 15 ou 20 secondes, et puis même un peu plus, ouais. Et puis il peut abattre son énorme marteau sur les ennemis, etc. C'est vraiment marrant. Il y a une promo cette année encore, un petit peu comme l'année dernière, où si on joue avec un ami, si on fait 15 ou 30 parties, on a des bonus et des persos gratuits, vraiment assez intéressantes. Moi, l'année dernière, je m'y étais mis pendant la période de creux d'Overwatch, quand il n'y avait pas la bêta qui était disponible. Et j'avais vraiment joué pas mal pendant peut-être 2 mois. Et je crois que là, ça va me faire revenir, peut-être que pour 2 mois, pour faire le truc de promo. Mais il y a ce mode Brawl dans Heroes aussi, qui est beaucoup plus facile d'accès. Donc peut-être que je me lancerai un petit peu là-dedans. La promo commence le 15 novembre et c'est jusqu'au 4 janvier. Qu'elle sera disponible. Ils ont parlé aussi de nouveaux modes de jeu qui seront pas symétriques. C'est-à-dire qu'il y a un brawl, justement, où il y aura une équipe qui devra attaquer et une équipe qui devra défendre. Ce n'est pas les deux qui doivent prendre le corps, c'est une qui doit l'attaquer et une qui doit le garder intact. Peut-être un truc intéressant à développer, à observer aussi. et le, alors j'allais dire le dernier jeu, il y a quand même StarCraft 2 qui a qui a eu quelques petites annonces, hein, un nouveau mode coop, un nouveau commandeur, une annonce avec de partenariat avec DeepMind de Google pour aider le, cette intelligence artificielle à jouer à StarCraft, enfin à StarCraft 2. Donc il y a des petits trucs. J'ai l'impression que quand même là aussi c'est bon, StarCraft 2, ils rajoutent pour les gens qui y jouent encore, mais c'est pas, ça faisait pas des feux d'artifice partout dans les yeux des gens, quoi.
Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas eu énormément d'annonces majeures, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir où est-ce qu'ils vont aller avec DeepMind, justement, voir quelle sorte d'intelligence artificielle ils vont sortir de là. Parce qu'on a vu les résultats, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu, mais on a vu les résultats, c'était cette année, si je ne m'abuse, avec le Go. Le Go qui est un jeu extrêmement difficile à coder, parce qu'il est très difficile de savoir si tu gagnes ou tu perds, et ensuite de ça, il est impossible.
Il y a énormément de choix, en fait. Le nombre de combinaisons possibles. Donc, pour un ordinateur, même aux échecs, il y a beaucoup moins de choix possibles que dans le Go. Donc, le fait que DeepMind ait réussi à gagner contre le champion de Go cette année, c'était incroyable. Mais alors, de là à StarCraft, il y a encore un certain pas, quoi.
Tout à fait. En fait, c'est impossible dans le Go de calculer toutes les possibilités d'un jeu. Donc, bon, dans StarCraft, c'est pareil. Il y a des milliards de milliards de milliards de possibilités de jeux différents. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'ils disaient, c'est ça leur permettra peut-être d'avoir de l'intelligence artificielle qui soit plus fine dans des niveaux qui sont en dessous de master professionnel. Donc, du coup, peut-être que les gens auront aussi un moyen d'avoir une intelligence artificielle qui est pas trop dure ou pas trop facile, bien adaptée à leur niveau et qui pourra même peut-être leur apprendre des choses. Donc je suis curieux de voir où ça va. C'est vraiment l'intelligence artificielle, enfin le machine learning sur ce genre de choses, c'est tout neuf. Donc à voir ce que ça va donner dans le futur.
Et peut-être des championnats d'intelligence artificielle de StarCraft, comme on a bien des combats de robots, donc pourquoi pas, hein.
Ouais, je pense que là-dessus, peut-être que Blizzard, avec les mises à jour de StarCraft 2, c'est vrai que ça emballe pas tout le monde, mais l'idée c'est peut-être de rester en tête des RTS et d'être le jeu de référence pour encore quelques années, d'expérimenter des choses avec DeepMind, etc. Et justement de rester le premier jeu dans la tête des gens jusqu'à éventuellement un Warcraft 4 qui remplacera StarCraft 2 chez les fans de RTS. Mais il laisse la place à personne entre temps.
Ouais, c'est peut-être effectivement, ils se disent, ben, on est là, et puis ils montrent qu'ils abandonnent pas le truc pour pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne prendre la place et s'y poser. Bon, moi je suis pas convaincu que les RTS soient encore assez vieux pour faire un retour, mais on verra à terme. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore une grande affection pour ce jeu-là, donc je comprends leur peine. Et puis enfin, Diablo, évidemment, hein, qui ne peut pas ne pas être présent dans une BlizzCon, avec des mises à jour dont on se doutait un petit peu avec les leaks qui avaient leaké, exactement, quelques jours avant la conférence. Alors, il y a deux choses principales. D'une part, un événement spécial qui s'appelle The Darkening of Tristram, qui est un événement Diablo 1, où ils ont refait Diablo 1 dans Diablo 3. Alors, certaines personnes se disaient, est-ce qu'il va y avoir un Diablo 1 HD complètement refait à partir du moteur de base ? En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est presque un mode de Diablo 3, si on peut l'exprimer comme ça. Il y a donc, ils ont rajouté des choses comme, on peut aller que dans 8 directions différentes. Le personnage se déplace avec son animation un petit peu automate, un petit peu marrante. Et puis, il y a un filtre visuel pour donner l'aspect pixelisé un petit peu moche de l'époque, mais le gameplay est relativement proche de Diablo 3 a priori, hein, c'est ce qu'on avait l'air de voir. Est-ce que ça vous parle, ça, ou c'est un truc vous allez y jouer deux fois et puis c'est terminé, ou c'est le truc que vous attendiez parce que vous adorez Diablo?
En fait, je me demande pourquoi est-ce que ils annoncent pas une extension. Enfin, je sais qu'il y a énormément de fans de Diablo, Diablo 3, il y a beaucoup de gens qui y jouent, je pense Judge pourra confirmer. Moi je connais des gens qui sont ultra fans, il n'y a eu qu'une seule extension depuis la sortie du jeu, qui est quand même sortie en 2012, donc ça fait 4 ans. Pourquoi est-ce que Blizzard ne proposerait pas plus régulièrement du contenu additionnel sur Diablo ? C'est bien ce genre d'idée de faire vivre la nostalgie. Mais je pense que pour du jeu vidéo, il faut aller de l'avant, il faut voir l'avenir. C'est comme si là, WoW, il nous... enfin, c'est le grand débat qu'il y a eu avec Nostalrius et les serveurs Vanilla. Je pense qu'ils font bien de se concentrer sur l'avenir, sur le contenu à venir. Si tu as le temps de proposer des trucs nostalgiques, pourquoi pas, mais ça m'a un peu surpris. Bon, si, il y a eu une nouvelle classe d'annoncer, mais moi je me pose la question, pourquoi est-ce que Blizzard ne propose pas plus d'extensions sur Diablo 3 ?
Ouais, il faut savoir que c'est les 20 ans de Diablo cette année, donc Diablo était attendu au tournant à la BlizzCon. Les nombreux fans s'attendaient à une annonce, s'attendaient à, alors peut-être pas un Diablo 4, mais peut-être un jeu dans la thématique, un jeu qui se passe dans l'univers de Diablo, puisque depuis un moment, Blizzard recrute des gens pour un jeu sur le thème de Diablo, mais on n'en sait pas plus. Donc il y avait vraiment de l'attente. Je pense que ça a été une déception pour les vrais fans de Diablo. C'est-à-dire que, ok, c'est super, un mode Diablo 1, la nostalgie c'est chouette, une nouvelle classe c'est chouette, mais... les gens s'attendaient à quelque chose. Ils s'attendaient aux 20 ans de Diablo en grande pompe avec vraiment une annonce exceptionnelle. Elle n'a pas eu lieu, mais voilà, il y a quand même quelque chose. Après, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à plus, et notamment bah, éventuellement des DLC, des petits bouts d'histoire qui rajoutent des actes supplémentaires dans l'histoire de Diablo, parce que c'est divisé en actes, pour un petit peu faire progresser ce monde qui stagne depuis 2014, je crois.
Avec la sortie de Reaper of Souls. Ouais, Damien ?
Ouais, bah, je confirme un peu la déception. Hein. Bah, nous, on attendait vraiment Diablo 4. Hein. Il y avait notamment une histoire du dé dans les des goodies, en fait, le dé à 4 faces, qui était mal conçu de telle sorte qu'on avait un 4 sur... Enfin, qui semblait indiquer que Diablo 4, quoi, c'était...
Oui. Un dé à 4 faces, en fait, en anglais. En français, ça se dit un D4. Donc, Diablo 4, évidemment. Alors, est-ce que c'est les théories des gens un petit peu prêts à voir des signes partout ? Mais c'est vrai que...
Il y avait une face qui était mal conçue, en fait. Les chiffres ne correspondaient pas et ça semblait indiquer, selon comment on regardait, on avait l'impression que ça indiquait vraiment Diablo 4. Et puis, en plus, au début de la cérémonie d'ouverture, ils ont commencé à... Et la première chose qu'ils ont affichée, c'est le dé. Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué. Moi, j'ai vu le dé, j'ai fait, c'est bon, Diablo 4, quoi. Eh bien, en fait, non. Alors, c'est soit Diablo 4, soit, dans le pire des cas, un remake de Diablo 2, mais on n'a eu ni l'un ni l'autre.
Ouais, donc... C'est vrai qu'il y avait quand même des gens qui attendaient ça. Vous l'avez évoqué un petit peu, là... Oui, pardon, tu voulais dire quelque chose, Emmanuel ? Non. Vous l'avez évoqué, il y a quand même une nouvelle classe qui arrive sur Diablo 3, et une classe, on parlait de nostalgie, la classe des nécromants, qui était la classe préférée, je pense, de la plupart des joueurs de Diablo 2. je vois Julien Judge Heap qui lève les sourcils, alors, avec l'air de dire « tu m'étonnes ». Et c'est vrai qu'ils vont en fait l'amener dans le jeu avec un character pack, ce qui veut dire, a priori, qu'il sera vendu. Donc, c'est confirmé, voilà. Et ça veut dire qu'il rajoute du contenu, il continue à monétiser le truc. Tu parlais, Florian, de l'idée d'avoir des petits trucs en plus, des petits des mini-bouts de contenu qui seraient en plus. Il est possible que ça soit la première classe, de plusieurs classes qui vont arriver. Peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont arriver. Je me demande s'ils ne sont pas dit, bon... voilà, Diablo 3 est très populaire, mais on est à un moment, un niveau, un truc où une nouvelle extension, bon bah c'est peut-être pas à l'ordre du jour, mais par contre on peut continuer à proposer des petits bouts de contenu pour des petites sommes, comme ci, par-ci, par-là. Est-ce que ça vous plairait ? Est-ce que c'est au contraire justement un truc où vous dites ah merde, ils vont nous faire payer des trucs qui devraient être gratuits, même si ça, je pense que c'est un petit peu exagéré, mais...
Non, au-delà de ça, je pense que le problème avec Diablo 3, enfin, je le vois comme ça, c'est que c'est un jeu qui a eu un lancement incroyable, avec une quantité de joueurs qui sont revenus les yeux pleins d'espoir et qui ont été vachement déçus au début. Et le jeu, même si maintenant, ils ont réussi, après plusieurs itérations, à en faire un jeu vraiment extraordinaire, je pense qu'il y a plein de gens qui sont restés sur cette première impression de Diablo 3. Et ces gens, peu importe ce qu'on va rajouter dans le jeu, ils reviendront jamais, parce que pour eux, Diablo 3, c'est pour toujours associer un jeu qui n'a pas marché pour eux au début. Et nous, vraiment, on aimerait avoir le Diablo 4 et qui reparte sur de bonnes bases, en fait. Parce que, enfin, Diablo 3, maintenant, en 2016, c'est un jeu qui est extraordinaire.
Mais Mais je suis assez d'accord avec cette histoire de perception, et je crois que c'est pour ça qu'on n'aura pas de deuxième extension. Parce que, et bon, il y a quand même des gens qui aiment le jeu, donc c'est pour ça qu'ils donnent quelque chose. Mais une autre extension, je me dis, plutôt que de faire une autre extension à un jeu dont l'image a été écornée, ils disent on repart sur des bonnes bases, et au lieu de mettre ce travail dans une extension de Diablo 3, on va faire un Diablo 4, et les gens se diront peut-être ah bah là celui-là c'est bon, je vais y aller, alors qu'une extension ça les intéresserait pas.
Ouais, je suis d'accord. Ce qui se passe, c'est que effectivement, je pense que Blizzard veut continuer d'améliorer Diablo 3 pour justement contenter tous ceux qui ont été déçus, et puis la communauté qui reste quand même une communauté conséquente et une communauté de passionnés. Donc ils n'ont pas envie de les laisser tomber et qu'ils se disent ah bah ça y est, on a eu un lancement difficile sur Diablo 3, tout a été amélioré, maintenant ils laissent tout tomber. Donc je pense que c'est pour ça qu'on va avoir droit à de nouvelles zones, aux nécromanciens, etc. Mais il doit se passer quelque chose en arrière-plan également, parce que tout à l'heure je leur ai posé la question de savoir quelle était la taille de l'équipe de Diablo à l'heure actuelle. Et Kevin Martens a dit c'est le genre de données qu'on ne communique pas. Alors qu'à l'inverse, c'est une genre de données qui communique sur les autres jeux. Et donc il dit ouais non, on va pas trop en parler, c'est quelque chose qu'on veut pas aborder sur Diablo. Donc voilà, probablement que l'équipe est peut-être... Alors il y a une époque où ils disaient qu'ils étaient plus que 40, donc à mon avis maintenant c'est plus le cas, l'équipe est certainement plus grande que ça, et probablement qu'ils veulent pas communiquer là-dessus, donc il doit se passer quelque chose. Donc la face visible de l'iceberg, c'est le nécromancien, etc., parce qu'ils mettent quand même longtemps à le développer. Là il n'y a pas grand chose à voir du nécromancien dans la démo, mais je pense qu'en arrière-plan ils travaillent sur quelque chose de beaucoup plus gros sur Diablo. Mais voilà.
Peut-être le fameux Diablo 4 qui... Ouais.
Et il faut savoir que pour Diablo 3, ils avaient annoncé Diablo 3, alors je crois que c'était en 2007. Finalement, il est sorti en 2012.
2008 à la WWI, je me souviens, on y était.
2008, il est sorti en 2012, ça fait 4 ans. Et je pense aussi qu'il y a ce traumatisme-là, c'est-à-dire que les gens l'attendaient tellement qu'il y a eu une énorme déception. Et que s'ils préparent un truc derrière, ils vont pas l'annoncer maintenant, sachant que ça sortira pas avant dans 3 ans. Pour justement pas recréer cette attente qui était insoutenable pour les joueurs et qui finalement a été déçue, puisqu'ils avaient des attentes qui étaient tellement extraordinaires que finalement le jeu était plus à la hauteur de ce à quoi ils s'attendaient, puisqu'il était teasé depuis tellement d'années. Donc...
Et puis il y avait le problème de l'hôtel des ventes aussi qui a causé des problèmes de gameplay. Ouais.
L'hôtel des ventes, et aussi il y avait tellement d'objets qui tombaient, tellement d'objets qui étaient tout naze, hein, rappelons-le. Enfin, on jouait au jeu, on trouvait un milliard d'objets qui étaient censés être rares et qui étaient tout pourris, et on passait notre temps à désenchanter, c'était pas super drôle, quoi. C'est vrai que le jeu a énormément changé, je suis d'accord avec toi, Damien, le jeu est vachement mieux aujourd'hui, mais
c'est marrant, même quand on dit tout ça, effectivement, on revient systématiquement, quand on parle de Diablo 3, au final, au bout de 5 minutes de discussion, on revient à cette histoire de les objets ils tombaient tellement, on s'en foutait, machin. Et... Bon, donc peut-être que c'est effectivement une bonne raison pour passer à Diablo 4. Je pense qu'on a couvert à peu près tous les jeux. Il y a évidemment eu énormément d'e-sport, dont on a parlé un petit peu d'Overwatch, mais il y avait les championnats de toutes leurs licences qui étaient hyper haletantes, hyper palpitantes. Je pense, on n'a pas forcément le temps d'évoquer tout ça ici, mais avant de conclure, j'aimerais vous demander à chacun les annonces, les news, tout ça, c'est effectivement une grosse partie de la BlizzCon, mais il y a aussi d'autres éléments, comme simplement le fait de se retrouver entre fans des jeux Blizzard et puis de passer un bon moment à geeker complètement. C'est même encore plus précis que fan de jeux vidéo, c'est vraiment fan de jeux Blizzard, et tout le monde comprend tout ce dont on parle quand on parle de trucs un petit peu obscurs. Dans cet ordre d'idées, pour vous, quelles sont les choses mémorables, agréables de la BlizzCon, ou pas mémorables, je sais pas, mais pourquoi est-ce que vous revenez presque tous les ans? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous l'avez eu cette année? Une réflexion sur la BlizzCon comme ça, les trucs qui vous, que vous dont vous vous souvenez?
Moi, j'aimerais bien aimer me dédoubler.
C'est vrai que par rapport aux premières où on était...
Voilà, il y a énormément de choses, il y a de plus en plus de choses. Il y a le Hearthstone Taverne au troisième étage et la foire de Sombrelune. Et on y est passé le soir du premier jour. Et il y avait une conférence, il y avait Samuel Zillier qui était là avec Greg Weissman qui a écrit World of Warcraft Traveler. Et il y a comme ça plein de petites conférences qui ne sont pas mises en avant, qu'ils soient sur le biais virtuel ou habituellement. et où on apprend des petites infos, où voilà, on est tous assis sur des canapés, et c'est une, tu dis, oh ben, je vais prendre un petit truc à boire, on va discuter avec eux, et il y a une super ambiance. Même sur le panel stage, où tout à l'heure j'ai assisté au Blizzard Publishing, bon, c'était un panel déjà un petit peu plus gros, mais voilà, il y a une bonne ambiance parmi les développeurs, avec les écrivains, et ça donne envie de rester, de prendre son temps. Voilà, ça c'est le côté de la BlizzCon qui est fantastique et que les gens ne voient pas spécialement.
C'est pas sur les streams, les gens en parlent pas énormément, c'est vraiment un truc beaucoup plus communautaire, voilà. Proche,
ouais,
convivial, quoi.
Voilà, tout à fait. Et les écrivains, voilà, il y a des gens qui venaient poser des questions, voilà, comment est-ce que je dois faire pour devenir écrivain comme vous et peut-être avoir une chance de travailler un jour avec Blizzard. Et donc voilà, ça discutait de qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un bon écrivain. Et voilà, et Mikey Nelson en parlait, et Christy Golden également. Et il y a comme ça plein de choses un peu partout dans la BlizzCon. Ils sont pas mis en avant parce que ça fait pas partie, c'est pas le patch 7.2 de World of Warcraft. Et donc voilà, c'est pour ça que j'aurais eu envie de me dédoubler pour pouvoir assister à toutes ces petites choses et être tranquille et prendre son temps là-dessus.
Quelqu'un d'autre, Mamie Twink peut-être?
Moi, ce qui m'a marqué cette année, c'était de suivre l'équipe de France d'Overwatch. D'habitude, je suis pas un grand fan d'e-sport, je regarde ça un peu de loin, notamment à Zeka qui suit ça de beaucoup plus près. Mais là, comme tu l'as dit, le fait que c'était d'ailleurs une très bonne idée de Blizzard. Au début, je n'étais pas forcément convaincu, mais après, j'ai adhéré. C'était de faire un tournoi Coupe du Monde par nation. Parce que comme tu l'as dit, on suit tout de suite la nation, enfin notre pays, la France, pour mon cas. On est tout de suite plus investi dans leurs matchs, dans leurs qualifications. Et je me suis vraiment pris au jeu à suivre leur parcours, à regarder les matchs. Puis ça a été une chance de pouvoir être avec eux en coulisses, pouvoir avoir leurs impressions la veille, voir comment ils s'entendaient ensemble, ils passaient du temps ensemble, ils se taquinaient tout entre eux. C'était super convivial et du coup, on a vibré avec eux. On était là pour le quart de finale contre la Russie dans ce magnifique stade. Et ça a été vraiment mon meilleur souvenir. Pareil pour la finale Hearthstone, c'était Pavel, un Russe, mais qui était un joueur Millennium. Donc forcément, une équipe francophone qui a son joueur en finale de la Coupe du Monde de Hearthstone. En plus, Hearthstone, c'est un jeu auquel on a énormément joué avec Zeka. Et on était là aux premières loges pour le voir triompher dans cette finale et soulever la Coupe. C'était un sentiment particulier que j'ai découvert pour la première fois cette année à la BlizzCon. Et du coup, ça va me donner envie de suivre l'e-sport d'un peu plus près.
Je pense que il y a vraiment une formule avec cette question de championnat par pays. Et pour le coup, bah là, on va en bouffer avec l'Overwatch Pro League. C'est exactement sur ça qui compte. Et je crois que ça va. Moi, je pense qu'effectivement, ça va amener, bah évidemment, pas tout le monde, mais ça va amener beaucoup plus de gens à s'y intéresser. Peut-être même des gens qui ne jouent pas forcément à Overwatch. Simplement aller regarder le truc parce que c'est la France qui joue ou la Belgique, quoi.
Ça trolle.
Mais non, mais attends, pourquoi? Moi je dis où la Belgique, c'est légitime. Non,
c'est vrai. Mais c'est vrai qu'ils ont pris ce contre-pied par rapport à tous les autres jeux e-sport. C'est-à-dire qu'en France, on a quelques stars, mais qui très vite partent à l'international, etc. Alors que le sport de base, c'est un peu bottom-up. C'est-à-dire qu'on est dans le village, voilà, il y a l'équipe du village qui va jouer, c'est cool, et au bout d'un moment, ça va monter, il va y avoir un club et tout. Et l'idée avec Overwatch, c'est un peu de reprendre ce principe bottom-up. Donc comme tu l'as dit, des villes, ça va être représenté par des villes, des régions, des compétitions donc entre nations, etc. Il y a vraiment cette idée d'identité, de s'identifier à l'équipe, de s'identifier aux membres de l'équipe, qui n'est pas présent dans les autres e-sports. Et je pense que c'est une carte qu'ils ont à jouer. Je pense qu'ils doivent miser beaucoup dessus et c'est extrêmement original. Enfin, original et non, puisqu'on repart sur des bases qui existent avec le sport.
Ouais, c'est ça, c'est limite. C'est pourquoi est-ce que personne n'y a pensé avant? Vous me confirmez, la ligue de League of Legends, c'est pas par pays, hein? Non, c'est des équipes. Ouais. Voilà, donc, des propriétaires d'équipes, comme tu dis. Mais ouais, Damien.
Ouais, parce que je suis d'accord avec ce que vous dites. Hein, je pense que les gens s'identifient plus par pays. On l'a vu sur le stream où il y avait énormément de téléspectateurs à comparer des tournois Overwatch habituels qu'on a enfin à BlizzCon, il y a toujours plus de viewers qu'à l'accoutumée, mais là on a vraiment vu un pic extraordinaire où Overwatch est passé devant League of Legends en termes de de vue, enfin concurrente, donc ça prouve bien qu'il y a un intérêt.
Ouais, bah c'est sûr. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est beaucoup plus facile de s'enthousiasmer pour la France ou la Belgique que pour Rogue ou le Luxembourg ou que pour Rogue ou NVUS ou je sais pas qui. Oui, vas-y.
Oui, donc moi, la raison pour laquelle je reviens à la BlizzCon tous les ans, c'est parce que Julien, il me paye, quoi. Merci, Julien.
Évidemment, évidemment. Mais oui, mais au-delà des raisons bassement pécuniaires, on revient donc à cette question pour conclure. Oui, ce que t'as retenu, ce qui te motive?
Oui, donc je déconne évidemment. Non, ce qui m'a vraiment impressionné à cette BlizzCon, c'est j'étais en train d'écrire les news pour le patch 7.1.5 de World of Warcraft où ils ont dit en tout premier point, c'est un petit patch et j'en pouvais plus déjà. J'avais 350 000 trucs à écrire. Et ensuite, il y avait encore le patch 7.2, mais j'en pouvais plus. Moi, j'étais heureux comme un enfant de 5 ans, là, à me dire, mais c'est incroyable le nombre de choses qui arrivent sur World of Warcraft. Et c'est pas fini. On va vous finir la conférence avec un petit tease Argus. Mais genre, j'ai failli avoir une crise cardiaque. C'était incroyable.
Bon, il y a un heureux au moins. Ça fait plaisir. Qui n'a pas dit? Julien ou Julien? Bon, on va commencer par Julien.
Alors moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est... Bon, c'est la troisième fois que je viens et c'est cette ambiance. C'est-à-dire qu'on est tous fans de jeux Blizzard. Ça se ressent. Il y a vraiment une vibration pendant la cérémonie d'ouverture. Il y a l'électricité dans l'air. C'est vraiment tout le monde est là sur le point de craquer. Et quand il y a les annonces, c'est la folie. Et c'est vraiment une sensation assez unique. En tout cas, dans le milieu du jeu vidéo, c'est assez exceptionnel. Et voilà, c'est une ambiance extrêmement spéciale. On retrouve les copains. Voilà. De tous les ans et on est tous là pour la même chose, on est tous dans le même délire et voilà, il y a que des bons sentiments, il y a voilà, pas de méchanceté, pas de haine, pas de, on est tous là pour kiffer et c'est super.
C'est vrai que même dans le milieu des jeux vidéo en général, il y a plein de conventions, il y a plein de salons, il y a la Paris Games Week, il y a la Gamescom, il y a l'E3, il y en a plein, mais celle-ci et je pense plus proche et même un petit peu différent d'un truc comme la QuakeCon ou
ou les anciennes fanfares d'EverQuest ou ce genre de choses.
C'est ça. Peut-être qu'on est plus proche de ça. C'est tellement spécialisé que quand on arrive ici, on sait qu'on est entre potes. N'importe qui, tu vois quelqu'un dans la rue qui est en train de manger un hot-dog assis sur un banc. Tu t'assois à côté de lui et tu commences à discuter et tu sais que bah ça pourrait être un pote quoi. Donc, et puis, Wave, ouais, vas-y.
Je pense qu'on ne peut vraiment pas comparer à la Paris Games Week ici. C'est une ambiance géniale. La Paris Games Week ou même la Gamescom, c'est au stand qui fait le plus de bruit. C'est la cohue. Enfin, t'as vite mal à la tête. Ici, tu prends du plaisir. Et là, du matin au soir, il y a une telle cohésion et une telle symbiose entre tous les visiteurs qui sont d'une même communauté, comme si on était d'une même guilde. Ça fait trop plaisir. Et enfin, ici, je viens vraiment avec plaisir et émerveillement, tandis que la Paris Games Week, c'est chouette, mais après une heure, ton crâne, tu crois qu'il va exploser, quoi.
Ouais, c'est vrai. J'espère qu'on vous aura fait passer un petit. Oui, pardon, tu voulais ajouter quelque chose, Damien?
Ouais, j'avais pas eu l'occasion de dire ce qui m'avait marqué.
Ah, excuse-moi, pardon. Non, mais tu vois, en fait, j'ai cru que c'était Julien qui avait pas dit. En fait, c'était Damien. Pardon, vas-y.
Ah, bon, moi, c'est pareil. Je viens pour l'ambiance. La cérémonie d'ouverture plus particulièrement, je me souviens notamment il y a 3 ans quand ils ont annoncé Heroes of the Storm, c'était incroyable, on avait l'impression d'être dans un stade où un joueur a marqué un but, enfin c'était quand on a vu Diablo apparaître, Nova, Arthas, enfin c'était bon, on n'a pas retrouvé ça cette année, mais il y avait quand même un peu on a un peu vibré sur Diablo même si on n'a pas eu les annonces qu'on voulait, et puis ensuite on a quand même pas mal livré pendant le panel où vous annoncez toutes les nouvelles choses qui arrivent dans 7.1.5 et 7.2. En tant que fan, c'est vrai que c'est sympa de voir toutes ces annonces en live le jour. Enfin, c'est comme Légion à Gamescom l'an dernier, on était tous et c'était incroyable quoi, de voir le jeu présenté devant nos yeux comme ça, en avant-première, on était les premiers à voir ce qui se passait, c'est cool.
C'est vrai que déjà le fait d'être fan, forcément ça aide qu'on nous parle de ces trucs-là, mais... Comme je pense, vous l'avez bien évoqué. Pour ceux qui ne connaissent pas cette convention ou ce genre de convention. Je suis sûr qu'il y a le même genre de truc pour d'autres conventions quand on apprécie. Il y a d'autres sociétés, d'autres jeux. Il y a vraiment un sentiment particulier et c'est ça qui nous fait revenir à chaque fois. On vient, on traverse la moitié du monde pour rester trois nuits. On est éreinté, on bosse comme des fous pendant toute la journée. Et puis c'est l'occasion aussi, je pense, pour vous aussi, de rencontrer les gens avec qui on interagit. Moi, je fais des podcasts en français, des podcasts en anglais. On rencontre des gens toutes les 5 minutes, quelqu'un qui vient vous serrer la main ou dire « Ah, salut, j'aime bien ce que tu fais. » C'est tellement... Enfin bon, vous l'aurez compris, il y a un truc spécial qui se passe et j'espère que ça vous aura peut-être aidé à comprendre pourquoi les gens y reviennent, sont prêts à payer des sommes aussi folles pour les billets, etc. Donc, au-delà... De la simple news qui même elle, comme le disait Damien, peut nous faire vibrer aussi. C'est vrai que l'annonce de Heroes of the Storm, l'annonce d'Overwatch, c'était des grands moments. On se disait un petit peu comme, j'imagine encore le parallèle avec des matchs de sport ou des concerts. Ou... C'est bête, hein, mais c'est un petit peu ça. C'est genre un concert, c'est pas la même chose qu'entier quand tu l'écoutes à la radio. Vous savez, la radio, c'est un truc qu'utilisaient les vieux avant. Voilà. Bref, écoutez, un immense merci à vous tous d'avoir été là. On va conclure l'émission. Avant de se quitter, je vais quand même vous demander à chacun de nous dire où on peut vous retrouver sur l'internet du cybernaute. À commencer, par MamieTwink.
MamieTwink.com et MamieTwink sur YouTube et les réseaux sociaux.
Merci beaucoup, Damien.
www.ic-veins.com, ICVeins sur Facebook et sur Twitter.
Parfait. Julien.
Sur judgeep.com et puis sur les réseaux sociaux également, Twitter, Facebook et Google+.
Très très bien. Alors messieurs, vous, c'est aussi Mamie Twink. Et, bon, mais on sait jamais, t'as peut-être un compte Twitter à vendre.
J'ai un compte Twitter à vendre, ouais, c'est Zekaria_HS. Et sinon, pour YouTube, c'est Mamie Twink et Facebook, Zekaria.
Et judgy.com, Lona ou lonajudgy.com.
Très bien. Écoute, comme ça, c'est clair. Pour ma part, c'est, vous le savez, NotePatrick sur Twitter et Facebook. FrenchSpin.fr pour l'émission avec les notes et les autres émissions qui sont disponibles sur le site. Le rendez-vous tech, notamment, où on vous parle de toute l'actualité tech tous les 15 jours. Julien me fait signe qu'il apprécie l'émission et j'apprécie son appréciation en retour. J'espère que vous avez bien aimé ce petit épisode fait enfin de BlizzCon au milieu de la grande fatigue du week-end. On vous fait de grosses bises et on se retrouve pour un épisode un petit peu plus normal dans quelques temps. Je ne sais pas quand exactement, on verra si je réussis à prendre l'avion avec ma dent manquante. Ça va être une expérience intéressante, ça aussi. On vous fait de grosses bises. À la prochaine.